Vous écoutez RFI Radio France Internationale. Il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
Arnaud Pontus.
RFI Matin, le journal avec Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Une grande partie de ce journal consacrée aux élections législatives françaises et le tour de force du Rassemblement National.
Le parti lepéniste d'extrême droite a récolté 33% des suffrages hier dans la droite ligne des résultats aux européennes. L'union de la gauche totalise 28,5% des voix. Pour le camp présidentiel, c'est la déroute avec 21%, mais encore beaucoup d'incertitudes. Il reste le second tour, le jeu des reports de voix et des désistements. Il n'y a qu'une semaine de battement, alors pas de temps à perdre. Viktor Orban aux manettes de l'Union européenne pour 6 mois. La Hongrie prend la présidence tournante de l'UE. Son dirigeant veut changer l'Europe de l'intérieur, mais sa marge de manœuvre risque d'être limitée. Et dans ce journal également, le gouvernement sud-africain pousse les murs, 75 membres et de la musique pour refermer cette édition.
Emmanuel Macron loupe son pari, le Rassemblement National n'est plus un paria.
Et c'est même la première force politique du pays, un peu plus de 33% des voix. Pour le parti fondé par Jean-Marie Le Pen à l'issue des législatives anticipées de ce dimanche, alors que la majorité présidentielle plafonne à 21% des votes, 28,5% des suffrages enfin pour le nouveau Front Populaire, coalition de gauche. Le camp macroniste apparaît comme le grand perdant de ce scrutin, la formation d'extrême droite comme la grande gagnante. Mais pour l'heure, Pierrick Bonneau, le RN reste les yeux rivés sur le second tour.
Marine Le Pen sait qu'elle vient d'être réélue dès le premier tour. Lorsqu'elle s'avance devant quelques centaines de militants dans son fief d'Hénin-Beaumont, quelques remerciements, mais pour la députée du Pas-de-Calais, l'heure n'est pas encore à la fête.
Rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour lancer dès la semaine prochaine, le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale.
À 200 km de là, plus de 300 journalistes attendent la prise de parole de Jordan Bardella dans une salle parisienne. Le candidat à Matignon s'avance derrière un pupitre sur lequel on peut lire « L'alternance commence, 5 minutes d'allocution, pas une de plus » et Jordan Bardella se pose en rassembleur.
J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun. Respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation.
Le patron du RN repart aussitôt sans prendre aucune question des journalistes. Pas d'improvisation ni prise de risque. Une stratégie pour l'instant payante pour Jordan Bardella.
Et conséquence de ce score, les appels à faire barrage se sont multipliés, les ébauches de tractations aussi, car le pays fait face à un nombre inédit de triangulaires au second tour. Entre 230 et 260 circonscriptions seraient disputées par 3 candidats. Alors pour éviter les dispersions de voix, certains ont appelé au désistement, à voter quoi qu'il arrive pour le rival du RN. C'est le cas notamment du Premier ministre Gabriel Attal. Une position tranchée que ne partage pas toute la majorité. Pour l'ancien chef de gouvernement, Édouard Philippe, la politique du ni-ni prévaut toujours.
Pour le second tour, j'appelle à voter, bien entendu, pour les candidats Horizon, Renaissance et Modem qui demeurent en lice. À défaut, lorsqu'ils sont opposés aux extrêmes, j'appelle à voter pour ceux qui, de la gauche social-démocrate, écologiste et communiste, à la droite libérale et conservatrice, au-delà de différences réelles et assumées, ont en commun l'attachement à la liberté, à l'ordre dans les comptes publics et dans la rue, au respect de l'état de droit, à l'indépendance de la justice, à la conviction que l'Union européenne est une partie de la solution et non un problème. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales.
Position partagée par la ministre Aurore Berger, qui ne souhaite pas de désistement automatique lorsque le candidat de l'ex-majorité est en troisième position. D'autres figures macronistes ont quant à elles préféré l'ambiguïté en appelant à voter contre le RN sans expliciter leur position sur la France insoumise.
La gauche qui, elle, s'est montrée très claire dès les premiers résultats.
Le patron de LFI, Jean-Luc Mélenchon, l'a martelé, il ne faut laisser ni une voix ni un siège de plus au RN. Les candidats LFI LFI arrivés troisième se désisteront donc systématiquement. Message similaire pour Olivier Faure du Parti Socialiste ou encore Marine Tondelier chez Europe Écologie Les Verts. Faire bloc à tout prix, c'est aussi ce que veulent ses sympathisants. Rencontrer Place de la République à Paris où des milliers de personnes étaient hier soir, Pierre-Olivier.
Les yeux rivés sur leur téléphone portable, ce groupe d'amis découvre en direct les premières estimations abattues.
Les
C'est catastrophique, quoi. Moi, j'étais un peu dans le déni, je me disais qu'il allait y avoir un sursaut un peu républicain, mais 34%, c'est énorme.
Cette jeune femme a les larmes aux yeux.
Je suis déçue pour le pays, vraiment. J'ai très peur pour mon pays et pour moi et pour tous les gens que j'aime. Et voilà.
Sur la place de la République, des slogans antifascistes sont scandés comme pour tenter de contrer l'hébétement général.
Je peux pas rire ce soir. On est passé de l'autre côté. De l'autre côté d'une sorte de quelque chose qui apparaissait impossible. Et là, c'est comme si on a traversé le fantasme. On réalise que la France est au bord d'être dans les mains d'un parti fasciste.
Malgré tout, ses sympathisants de gauche veulent plus que jamais faire bloc avant dimanche prochain.
On a déjà essayé RN, ça s'appelait Pétain, et on a vu ce que ça a donné. Voilà pourquoi je suis là.
Je vais encore prendre d'autres procurations.
Moi, je fais des vidéos, là, je suis en train de prendre des photos pour partager sur mes réseaux sociaux personnels, peut-être inciter les jeunes de mon âge à voter au second tour.
Jusque tard dans la nuit, les prises de parole des leaders du nouveau Front Populaire ont comme redonné un souffle d'espoir sur la place de la République.
Pierre-Olivier.
Et ces élections ont été suivies de très près par les voisins de la France.
Et notamment en Allemagne, car Paris est le principal partenaire européen de Berlin. Et malgré une discrétion de façade, l'inquiétude des dirigeants allemands est palpable, Pascal Thibault.
La fin du macronisme pour le quotidien conservateur Die Welt, c'est une page qui se tourne en France. Par sa dissolution, il a ouvert les portes du pouvoir au RN, estime le magazine Die Zeit. Le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine juge le président français seul responsable de cette débâcle. Un chef de l'État qui, sans nécessité, dissout et se prive de sa majorité, ne peut pas espérer une mention positive dans les livres d'histoire, assène le journal, qui s'inquiète pour les conséquences internationales des législatives françaises. La France pourrait bien être pour des années aux abonnés absents en Europe et au sein de l'OTAN, seule la Russie peut s'en réjouir. La classe politique est restée très prudente en Allemagne, seul l'ancien ministre des Affaires européennes et actuel président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, Michael Roth, a réagi, estimant « cela ressemble à une nouvelle gifle pour Macron, l'Europe et l'amitié franco-allemande ». Le social-démocrate estime cependant que son parti porte une part de responsabilité dans le résultat des législatives françaises. « Nous nous sommes trop peu demandé comment nous pouvions plus soutenir le pro-européen Macron. Nous ne tenons pas suffisamment compte des débats politiques et des problèmes dans d'autres pays ». Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et au lendemain du premier tour des élections législatives françaises, édition spéciale à suivre dans 6 minutes maintenant. L'Union européenne referme le chapitre belge et ouvre une page hongroise.
La Hongrie prend à partir d'aujourd'hui la présidence tournante des 27. Un changement regardé avec inquiétude côté européen. Car la Hongrie de Viktor Orban s'est plusieurs fois montrée réservée, voire hostile vis-à-vis de l'UE. Mais Daniel Valo, même si le dirigeant hongrois souhaite changer l'UE de l'intérieur, ce n'est pas si simple que cela.
Le slogan choisi par la Hongrie pour cette présidence ne l'a pas été totalement au hasard. Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe, est un clin d'œil évident à Donald Trump, l'ancien président américain qui n'a jamais caché sa proximité idéologique et politique avec la Hongrie de Viktor Orban. Proche de Donald Trump, mais aussi de Vladimir Poutine, le Premier ministre hongrois pourrait profiter de cette présidence tournante pour entraver l'aide à l'Ukraine et pour marquer de son empreinte une Union européenne qu'il voue aux gémonies depuis des années. La présidence hongroise sera néanmoins limitée dans le temps car raccourcie par la trêve estivale et elle intervient à un moment de transition avec la mise en place du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission. L'activité législative en sera forcément réduite. En fin de compte, le rôle qui sera dévolu à la Hongrie sera essentiellement un rôle de médiateur, de coordinateur, ce que ne cesse de souligner depuis des mois l'ambassadeur hongrois auprès de l'Union européenne, Balint Odor, qui assure vouloir jouer, lui, la carte de la modération, là où le Premier ministre Orban est accusé de jouer celle de la confrontation.
Explication signée Daniel Valo.
RFI, les 8h10 à Tel Aviv et dans le nord d'Israël. 18 soldats israéliens blessés hier sur le plateau du Golan.
Oui, cette région à la frontière frontière avec le Liban, où le Hezbollah a mené hier une attaque de drones. Les échanges de tirs et l'escalade se poursuivent entre le mouvement libanais et l'État hébreu, des attaques plus fréquentes, plus intenses. Et c'est encore pire depuis qu'Israël a menacé d'une opération de grande ampleur. Pour les habitants à la frontière, c'est donc l'angoisse. Reportage d'Alice Froussard à Kiryat Shmona, tout au nord d'Israël.
Ilana passe la plupart de son temps dans son abri anti-aérien. Dans cette petite chambre à la porte blindée, cette Israélienne a installé Internet, déplacé un lit, ses vêtements, ses cosmétiques, ses médicaments, même des réserves de nourriture.
Tout ce dont j'ai besoin est ici, je n'ai pas à chercher les choses. J'ai même laissé des valises au cas où je doive partir de façon urgente.
La retraitée de 65 ans est partie lorsque la ville où elle habite a été évacuée le 20 octobre. Mais elle a décidé de revenir deux jours après, par choix.
Un ami m'a dit il y a quelque temps, je ne sais pas si tu es courageuse ou si tu es stupide. Je lui ai répondu que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je suis effrayée, mais j'ai au moins le sentiment de soulagement d'être chez moi, quand je suis derrière ces portes, je me sens en sécurité.
D'après elle, l'unique problème de cette guerre d'usure entre le Hezbollah et Israël, c'est le gouvernement israélien qui joue un jeu dangereux, estime-t-elle, en provoquant le Liban et en les poussant à une escalade. Mais à Kiryat Shmona, tous n'ont pas cette même lecture. D'autres, comme Rami, vétérinaire, ont des discours bien plus va-t-en-guerre.
À chaque fois, on nous dit que ça sera la semaine prochaine, le mois prochain, et c'est toujours la même chose. Je pense qu'ils veulent un accord, mais je ne sais pas si la solution dans le Nord débouchera d'un accord, parce que le Hezbollah ne veut pas de nous.
Comme lui, nombreux attendent une guerre totale qu'ils voient comme la seule solution, peu importe son prix. Alice Froussard, de retour de Kiryat Shmona, RFI.
L'Afrique du Sud voit les choses en grand pour son gouvernement.
Plus de 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa, le nouvel exécutif a été dévoilé hier et c'est une équipe XXL, pas moins de 75 ministres issus de 9 formations différentes. C'est inédit dans un pays où l'ANC a dominé pendant 30 ans, mais le chef de l'État n'avait pas vraiment le choix, Romain Chanson.
La promesse de réduire le nombre de ministères vient de voler en éclats, car il a fallu faire de la place et contenter tout le monde. Certains ministères sont donc appuyés par 2 ministères adjoints. Attention à ne pas se marcher sur les pieds. L'Alliance démocratique, le parti arrivé deuxième, obtient 6 ministères. Son chef, John Steenhuisen, est nommé à l'agriculture. Le parti obtient aussi le ministère de l'Intérieur, en pleine réforme de l'immigration, et alors que le processus d'attribution des visas est défaillant. En revanche, l'ANC conserve les affaires étrangères, sorte de domaine protégé, où est promu le jeune Ronald Lamola, qui s'est illustré en portant l'accusation de génocide à Gaza contre Israël devant la Cour internationale de justice. Autre nomination marquante, le politicien xénophobe Gayton McKenzie, qui rêvait de l'intérieur ou de la police, doit se contenter des sports et de la culture. Et puis le chef du parti Afrikaner, Freedom Front Plus, une minorité au pouvoir sous le régime d'apartheid, devient ministre des prisons. Le gouvernement est donc un alliage hétéroclite de partis très différents, un gouvernement gonflé à l'hélium que ses opposants essaieront de faire éclater en vol. Romain Chanson, Johan Lesbourg, RFI.
Et comme souvent, on termine en musique.
En musique, oui, s'il vous plaît. On prend la direction de la côte ouest des États-Unis, me dites-vous.
Absolument, c'est de là que le rappeur Vince Staples vient de sortir son 6e album, Dark Times, des rythmes doux pour accompagner des paroles mélancoliques. Olivier Roger l'a écouté pour nous.
Avec son flow traînant, sa musique au croisement du Motown et du gangsta rap et ses textes grinçants, Vince Staples a des allures de dandy désabusé des banlieues incertaines de l'Interland californien. Le musicien de Long Beach n'a pas son pareil pour décrire d'une plume précise les sentiments de vacuité et d'insécurité que l'on peut éprouver dans l'Amérique des ghettos. Avec ses promesses baignées de lumière noire, Dark Times, 6e album de Vince Staples, offre un panorama éblouissant du talent créatif du rappeur, car s'il vient à l'origine du gangsta rap, Vince Staples est aujourd'hui un avant-gardiste ouvert à tous les styles, y compris à l'électropop. Celui qui en 10 ans s'est construit une réputation flatteuse au point de séduire Gorillaz et Damon Albarn, qu'il avait invité sur l'album Human en 2017, ne se limite pas à la musique. Netflix a produit cette année une mini-série qu'il a écrite et dans laquelle il interprète le personnage principal, des tranches de vie sur la condition noire aux États-Unis, bourré de cet humour grinçant et détaché qui est désormais sa marque de fabrique. It was all right, peace, it was...
Le rappeur américain Vince Staples pour terminer ce journal. Rendez-vous à 7h52, temps universel, pour en découvrir plus dans notre choix musical.
Merci Léa Boutin-Rivière, à tout à l'heure.
Vivez les élections législatives françaises avec RFI.
Le Rassemblement National en tête et en force. Jamais l'extrême droite française n'était arrivée aussi haut lors d'une élection législative. Dans une semaine, le RN pourrait remporter la majorité à l'Assemblée nationale.
Ce 30 juin 2024, dans le pays renaît l'espérance. Le 7 juillet, mobilisez-vous pour que le peuple gagne.
Face à la possibilité d'une victoire du RN, la gauche et le camp présidentiel appellent à des désistements au second tour.
L'unique enjeu de la semaine qui vient, c'est de barrer la route au Rassemblement national et d'empêcher une majorité absolue d'extrême droite.
Quel rapport de force, quelle stratégie pour le second tour, quelle dynamique avant le 7 juillet. Analyse, reportage et débat tout au long de RFI Matin. Et pour ce premier quart d'heure, nous sommes avec Émilie Zapalski, spécialiste en communication politique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, Frédéric Couteau nous livrera les commentaires de la presse après ce premier tour des élections législatives en France. Édition spéciale sur RFI. Et pour commencer sur de bonnes bases, avec le tableau le plus complet de la situation politique en ce lendemain de premier tour, Valérie Gasse m'a rejoint. Bonjour Valérie.
Bonjour Arnaud.
Chef du service politique de RFI. L'ordre d'arrivée qui était prévu, annoncé par les sondages depuis trois semaines maintenant, eh bien cet ordre d'arrivée a été respecté au premier tour.
Oui Arnaud, le Rassemblement National est arrivé largement en tête en recueillant 33% des voix, de quoi être satisfait dans le camp de Marine Le Pen, qui a été la première à s'exprimer hier soir, et son principal message, comme celui de Jordan Bardella un peu plus tard, ça a été de dire aux électeurs « Donnez-nous la majorité absolue ». L'objectif est atteignable selon les projections en sièges qui ont déjà été réalisées, mais il n'est pas assuré car il peut toujours y avoir des évolutions dans la semaine de campagne qui s'est ouverte. Le score du RN est d'ores et déjà historique, vous l'avez rappelé. Reste à savoir si le plafond de verre déjà bien fissuré du second tour va résister ou si le RN va définitivement l'exploser le 7 juillet et accéder au pouvoir.
Ouais, un accès au pouvoir de l'extrême droite, du Rassemblement National. C'est un danger qui a été identifié très clairement à gauche.
Oui, le nouveau Front populaire qui arrive, deuxième à 28% des voix, s'est immédiatement positionné en rempart contre l'ERN. Jean-Luc Mélenchon a déclaré « c'est l'ERN ou nous », en essayant de placer la gauche dans un duel contre le parti à la flamme, une manière d'exclure la coalition présidentielle de la bataille. Le leader insoumis a qualifié le premier tour des législatives de désastre pour Emmanuel Macron, quand Marine Le Pen a estimé que le bloc macroniste était pratiquement effacé à gauche. Pas d'ambiguïté cette fois-ci, le mot d'ordre c'est de se désister pour faire barrage au RN en cas de triangulaire, même Jean-Luc Mélenchon l'a affirmé.
Bon alors les choses ne sont pas aussi claires du côté de la coalition présidentielle qui n'a obtenu que 20% des voix hier.
Oui, Gabriel Attal a déclaré « pas une voix pour le RN » en appelant lui aussi au désistement pour les candidats des forces républicaines, sans préciser s'il y avait des exclusions à cette consigne. Pas le même son de cloche en revanche pour Édouard Philippe par exemple, qui resté sur le ni-ni, ni RN ni LFI, dans la logique de la campagne du premier tour dans laquelle le camp présidentiel renvoyait dos à dos RN et LFI. Certains candidats ont déjà tranché, comme la ministre Sabrina Agresti-Roubache, troisième à Marseille, qui s'est immédiatement désistée. Tout va se régler au niveau national mais aussi local. On annonce plusieurs centaines de triangulaires. Les candidatures doivent être déposées d'ici demain 18h.
Merci Valérie Gasse. On vous retrouve tout à l'heure aux côtés de Nathalie Amard dans notre édition spéciale. Émilie Zapalski, qu'est-ce qui vous semble le plus notable à la lumière de ce qu'on sait de ce premier tour?
Bah déjà que les sondages ne se sont pas trompés, hein. On est vraiment quand même pile poil, et c'était exactement pareil aux élections européennes, c'est-à-dire que la progression du Rassemblement National, elle est actée, elle est acquise hein, quelque part. Maintenant, c'est à savoir la majorité absolue, c'est vrai qu'elle n'est pas encore là. Moi, ce que je vois, ce que j'ai noté, c'était quand même, et vous en avez parlé, Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole en premier pour le front, pour le nouveau Front populaire, donc en se positionnant au devant de la scène, ce qui n'était pas forcément souhaité pour le nouveau Front populaire, parce que ça fait apparaître LFI au premier plan.
Et qu'on sache si c'était voulu par les autres, bon, et peut-être pas. Hein.
Ça avait pas l'air très très coordonné, il me semble, en tout cas, vu son entourage aussi.
Il s'est présenté pour être, vous parlez de l'entourage, pour être tout à fait clair, il s'est présenté avec derrière lui que des élus insoumis.
Voilà.
Donc il y avait une petite soirée LFI avant le grand rassemblement à la République avec les leaders de la gauche.
Voilà. Donc ça, c'était quand même assez notable. Après, ce qui était assez intéressant hier soir, c'est de voir justement comment les uns et les autres se positionnent. On sent qu'il y en a qui ont la tentation, je parle à droite, de rejoindre un petit peu les gagnants. Je pense à François-Xavier Bellamy qui n'a pas évidemment appelé à voter RN, hein, puisque les Républicains sont dans un... Voilà, il n'y a pas de consigne, mais simplement il dit le plus grand danger, c'est l'extrême gauche. Donc c'est quand même assez clair pour justifier un passage à l'extrême droite. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, la majorité absolue, l'ex-majorité présidentielle, qui n'est pas encore totalement claire, mais on sent quand même, et on voit dans les premiers désistements qui arrivent, qu'il peut y avoir quand même une sorte de reste de front républicain qui passe. Je parle notamment, par exemple, de personnalités comme François Ruffin, qui est arrivé en second, et a priori, le candidat Ensemble pour la République se retire. Même chose du côté d'Elisabeth Borne, c'est quand même assez cocasse quand même. Nouveau Front Populaire qui se retire.
La gauche se désiste pour que Elisabeth Borne soit possiblement réélu l'ancienne première ministre.
Voilà, Olivier Faure l'assume totalement. Donc si à ce jeu-là, rien n'est totalement perdu pour ce Front Républicain, il faut le rappeler quand même qu'il va y avoir à peu près 300 triangulaires, donc sur 70 candidats qui sont déjà élus au premier tour. Voilà, il y a du mou. C'est vrai qu'il y a beaucoup de duels ou de triangulaires qui donnent l'avantage au Rassemblement National, mais les choses sont encore mouvantes jusqu'à demain 18h.
Rien n'est joué.
Ouais. Et il me semble que c'est vraiment, on a l'impression que les masques tombent, c'est-à-dire qui vraiment fait barrage au Rassemblement National, quels que soient les candidats, qui choisit, comme Édouard Philippe, comme vous l'avez dit, de délimiter son barrage au cas par cas, mais surtout vis-à-vis d'LFI. Je pense que ça va être quand même intéressant parce que ça présage de ce qui peut se passer après, c'est-à-dire quelle est la masse un peu informe qui peut s'opposer à l'extrême droite. Qu'ils aient la majorité ou pas, qu'ils aient une grosse majorité relative ou une majorité absolue, ça va être intéressant de voir comment ça peut s'organiser cette
masse. C'est tout l'enjeu des quelques 36 heures qui nous séparent de la date limite, de l'heure limite du dépôt des candidatures. Crainte du peur du Rassemblement National, et ça s'est bien senti dès hier soir, puisque des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris. C'était place de la République, 8000 d'après les chiffres de la police, réunis en soutien au nouveau Front Populaire, et à Marseille, dans le sud de la France, un rassemblement équivalent avec là des dizaines de personnes, tous présents donc pour dire leur inquiétude face à cette montée de l'extrême droite. Reportage de Siam Spencer.
Dans le quartier populaire de la Belle de Mai, au centre de Marseille, une centaine de personnes se tiennent debout, les mines sont déconfites, les yeux humides.
J'ai envie de pleurer.
Assise sur un bout de trottoir, Maya a voté pour le nouveau Front Populaire, mais surtout contre le Rassemblement National.
Je suis une femme, j'ai peur. J'ai peur de perdre tous mes droits, j'ai peur de perdre ma liberté, mon homosexualité, j'ai peur de me faire lyncher.
Installée dans des chaises quechua, à quelques mètres du Rassemblement, Yacine ne cache pas non plus son désarroi.
C'est triste de voir une France comme ça, une France qui vote pour l'extrême droite. On a essayé, les gens comme nous, on a essayé de voter, les gens des quartiers, ils ont essayé de voter. Il y en a plusieurs ici qui n'ont jamais voté de leur vie et là, on a essayé de changer les choses et au final, on voit que ça sert un peu à rien.
Des militants se relaient derrière un mégaphone. Attentive, Myriam cherche du réconfort dans les discours prononcés.
C'est déjà compliqué d'être une voilée, d'avoir des origines en France, mais avec en plus cette liberté de parole et cette normalisation du RN, ça met hyper mal.
Seul espoir pour la suite que toutes les sensibilités politiques confondues fassent barrage au RN pour le second tour.
On devrait tous être unis, on ne devrait pas faire de différence, on devrait tous s'inquiéter de ce que la France est en train de devenir.
Myriam qui finit par rentrer chez elle lorsque le rassemblement s'élance pour rejoindre le Vieux-Port, même si elle l'avoue, cette semaine, elle aura du mal à trouver le sommeil. Siam Spencer, Marseille, RFI.
On entend bien ces inquiétudes. Émilie Zapalski, sur quoi va se jouer le second tour ?
Alors le second tour, c'est justement en fonction des désistements ou pas, enfin des choix véritablement quand il y a un candidat RN qui est en position de gagner, savoir si les uns et les autres laissent la place.
Après, on aura deux blocs, a priori, deux blocs qui vont s'opposer dans la plupart des circonscriptions, sauf erreur de ma part. Le Rassemblement National d'un côté, le nouveau Front Populaire de l'autre.
Oui, mais ce nouveau Front Populaire, il peut prendre un autre visage si justement il y a des désistements. C'est ça qui est intéressant parce que il faut vraiment penser que au Parlement, après coup, c'est-à-dire après le 7 juillet, il y aura en effet cette force que représente maintenant l'extrême droite et le Rassemblement National avec quelques alliés. Et puis en face, il faut voir que cette espèce de masse, hein, moi je l'appelle pour l'instant parce que c'est le Front Républicain, peut prendre une configuration différente. On a entendu par exemple Édouard Philippe dans un discours assez rapide essayer de joindre les deux bouts, c'est-à-dire un centre et un centre droit, on voit qu'il peut y avoir un peu de mou par rapport à ça. C'est-à-dire à gauche, en fait, ce que je veux dire, c'est que le nouveau front oui. populaire sera moins visible extrême gauche si des forces du front républicain s'y joignent et
qu'on considère. Donc, recomposition possible.
Il me semble qu'il y a une recomposition qui est possible et je pense que les appels, en tout cas, de Gabriel Attal à faire barrage au RN, c'est quand même un changement. C'est un peu tardif, moi, je trouve.
Et le fait d'annoncer que la réforme de l'assurance chômage était suspendue dès hier soir est quand même un signal.
Complètement, c'est un signal à gauche. C'est le en même temps qui se déporte un petit peu sur la gauche, alors qu'il était beaucoup plus à droite jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va suffire? Moi, j'ai trouvé que entre le nini et puis maintenant le barrage au RN, le volte-face est un peu rapide. Il est plus clair qu'en 2022. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au soir du premier tour, les consignes du camp présidentiel n'étaient pas du tout claires. Là, au moins, ça a le mérite d'être un peu plus clair. Mais c'est très tardif, je trouve. On sait que les grosses ficelles, ça marche toujours. Est-ce que ça peut créer véritablement un réveil front républicain? À voir.
On va voir. On va voir ce qu'en dit la presse, d'ailleurs, avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Arnaud.
Désormais, il y avait l'inquiétude au sein de la presse internationale. Ce matin, c'est plutôt carrément la peur.
Oui, la démocratie française parle et elle fait peur, s'exclame Le Temps à Genève. Le premier tour des législatives en France s'achève sous le regard effaré de ses voisins européens. Le Rassemblement national s'impose ce 30 juin comme première force politique du pays. Un tremblement de terre initié par le président Macron s'ouvre, une semaine folle de négociations et de consignes de vote avant le coup près du deuxième tour. La France au bord du précipice, renchérit le soir à Bruxelles. Seul un énorme coup de théâtre pourrait éviter le pire, la victoire écrasante d'un parti raciste. L'irresponsabilité est immense, poursuit le journal. L'extrême droite au pouvoir ferait vaciller les fondements de la République. Pour l'école, la culture, les médias, le quotidien des Français et des étrangers, la bascule serait terrible.
Le tabou est brisé, constate pour sa part le Corriere della Sera à Rome.
Le cordon sanitaire qui a tenu pendant des décennies l'extrême droite hors du pouvoir a cédé. Macron ne le voulait pas. Il voulait de la clarté, il voulait placer les Français devant un choix encore plus important que celui des élections européennes. Il espérait unifier son propre camp, celui des modérés et des réformateurs, et diviser ses adversaires. C'est le contraire qui s'est produit. Son camp a implosé. Le macronisme a échoué, insiste Die Welt à Berlin. Macron, qui se considérait comme un barrage contre les populistes de droite, se révèle être leur tremplin vers le pouvoir. Le Figaro, à Paris, fulmine. Quel champ de ruines! Le chef de l'État faisait profession de barrer la route aux extrêmes. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Prise dans la tenaille de ce face-à-face mortifère, la France se retrouve placée devant la double perspective de l'aventure politique ou du blocage institutionnel, les deux facettes d'une crise de régime. Merci Macron.
Beaucoup d'autres commentaires dans la presse et vous nous les livrerez tout à l'heure, Frédéric. Merci d'être venu nous donner cela ce matin. Émilie Zapalski, je me retourne vers vous. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Emmanuel Macron a totalement raté son pari.
Alors, il faut voir, on est encore que le lendemain du premier tour. C'est vrai qu'au niveau des députés de la majorité présidentielle, je regardais, il y en a 69 qui ont gagné qui sont en position de gagner en première
élection, oui,
contre
d'élection.
200 en 2022. Donc, c'est sûr que le camp présidentiel, il est complètement ravagé, que ça a été une décision qui a pas vu venir peut-être cette union de la gauche qui a semé un peu, du coup, le bazar dans ses plans, quelque part. Moi, ce que je trouve, c'est quand même, ça a l'avantage, j'ai écouté votre journaliste, de redire que le Rassemblement national, c'est de l'extrême droite et que c'est bâti sur la haine de l'étranger.
Oui,
c'est dit beaucoup plus clairement que ces dernières années. Oui, un peu plus aussi, je trouve, en France, parce que j'ai jamais autant entendu parler d'extrême droite, alors qu'avant, on disait non, on peut plus les qualifier comme ça. Et puis tout d'un coup, quand la réalité du pouvoir côté extrême droite arrive, on commence à se dire, ah ouais, c'est peut-être quand même un petit souci, voilà. Donc je trouve que ça a la clarté. Et même un Emmanuel Macron qui mettait sur un pied d'égalité le NFP, soi-disant extrême gauche et l'extrême droite, a reculé là-dessus. Il sera peut-être obligé, d'ailleurs, de composer avec ses forces à gauche.
Parce que je vous entends dire depuis le début, et on va conclure ainsi, que rien n'est joué. Mais il y a tout de même une dynamique en faveur du Rassemblement national. Est-ce que ça, c'est une réalité?
La réalité, c'est qu'on va avoir probablement plus de 200 députés Rassemblement national en France. Ils étaient 88 en 2022 et ils étaient 1, 2, 3 auparavant. Donc c'est un changement complet. C'est sûr qu'ils vont compter dans la vie politique. S'ils ont une majorité absolue, ils auront le gouvernement.
Mais c'est encore la question.
C'est
ce
encore
matin,
la question. Mais je pense que si le Front républicain et si les gens sont assez lucides pour voir quels sont les dangers de les laisser, même s'ils pourront pas passer toutes les mesures, et on l'a vu avec un Jordan Bardella qui, avant même l'élection, pour être plus crédible, a renoncé à certaines mesures ou les a fait passer en second plan. Je parle du voile dans l'espace public à interdire, et puis toutes les mesures économiques qu'il fera pas. Donc il y a encore des possibilités. Si ce front républicain passe, moi j'entends des voix, ça me rassure un peu, à droite, qui disent faut pas hésiter, faut arrêter avec le ni 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 machin, faut barrage au RN, un point c'est tout, on est la France quand même, hein. Donc les pays des droits de l'homme, il faut qu'on garde cette dignité.
Merci à vous, Émilie Zapalski, spécialiste en communication politique, d'être venue ce matin sur RFI. On poursuit nos éditions spéciales tout au long de RFI Matin.